Dans les années 80, en Roumanie, Sorin Parvu, un brillant mathématicien, ne parvient pas à publier sa thèse. Pendant l'ère communiste et surtout sous le régime de Ceausescu, même si l'on a du génie, il faut aussi savoir se compromettre. Une ancienne collègue et amie de Sorin, Elena, a le projet de quitter le pays pour rejoindre son mari déjà installé en France. Sorin décide donc de lui demander de transporter secrètement une valise qui contient le résultat de ses recherches, révélant un nouveau théorème qui va révolutionner les mathématiques. Malheureusement, Sorin est surveillé de près et fait l'objet d'une enquête de la police d'État pour avoir été publié sans autorisation dans une revue américaine. Ce film tout en noir et blanc résume le difficile combat de deux scientifiques face aux pressions et manipulations de la police sous le régime dictatorial de l'époque, tout en mettant en avant les relations humaines entre proches qui peuvent être bafouées à tout moment sous un régime politique totalitaire et sans concession. Le réalisateur Andrei Grouzniski signe là son deuxième long métrage. Son premier film, L'autre Irène, présenté dans la compétition européenne du Arras Film Festival en 2009, avait remporté le prix de la mise en scène. Et curieusement, pour l'anecdote, au moment où je réalisais l'interview avec lui, le jury de la presse était en train de lui décerner le prix de la critique française. Je vous propose donc d'écouter cet entretien où l'on reviendra sur les thèmes principaux de son film Quod Erat Demonstrandum. Il évoquera également sa participation au Arras Days pour présenter son nouveau projet.
Quod erat demonstrandum, le titre résume quand même ces QFD, ce qu'on appelle nous en français, ce qu'il fallait démontrer. Alors, qu'est-ce qu'il fallait vraiment démontrer dans ce film ?
Il fallait démontrer une chose qui s'appelle la démarche pour la liberté. Mais en fait, d'un côté, le film parle de la liberté de voyager et parle aussi des frontières. C'est pas un film que sur le passé, ce problème des frontières, c'est toujours actuel, je pense. Il y a 25 ans, ou presque, oui, quand on avait les frontières entre l'Est et l'Ouest, et maintenant elles sont un peu bougées au bord de l'Union européenne.
Alors votre film donc se passe sous le régime de Ceausescu. Le thème principal, c'est un mathématicien qui veut faire passer un théorème du côté de l'Ouest en France. Et on a l'impression que c'est un alibi pour justement parler de l'humanité en fait, de personnes entre elles.
Mais voilà, tout à fait. Bon, son histoire, c'est un peu le fil rouge qui mène un peu l'histoire. Mais je voulais parler d'amitié, et puis bien sûr de trahir et en fait de confiance. Je pense qu'on a réussi bien faire un film qui parle de tout ça d'une manière très subtile et très humaine, très humaine.
D'ailleurs, entre les deux amis qui se connaissent apparemment depuis très longtemps, il y a eu un pacte d'amitié qui a été signé. Et c'est aussi en fait le symbole de ce film, c'est qu'à un moment donné, ce pacte d'amitié ne va plus tenir.
Le pacte, c'est un peu partie de l'éthique nicomachique. Et ils ont été étudiants, très jeunes, ils avaient des rêves, tout ça. Et en fait, le film parle aussi des rêves. Et qu'est-ce qu'on fait après, je ne sais pas, 20 ans? On vit les rêves, est-ce qu'on va quitter les rêves ou on va toujours essayer de les suivre? Comme Sorin, l'ami qui habite en Roumanie, il essaye toujours soutenir, mais il essaye toujours vivre son rêve d'être un bon mathématicien sans faire des compromis avec le régime. Pendant que son ami qui est parti à Paris, il s'est écarté de son rêve d'être mathématicien. Il veut juste vivre une bonne vie dans un pays occidental.
Est-ce que c'est tiré d'une histoire vraie ?
Non, pas du tout. En fait, l'histoire vraie qui était le démarche de ce film, c'est une histoire de quelqu'un que j'ai connu à l'époque, qui a quitté la Roumanie et puis il a eu des mal pour, je ne sais pas, une année et demie, de récupérer sa famille de Roumanie. Donc au début, j'avais écrit cette histoire que j'avais connue à l'époque. Mais puis, avec la productrice, on arrivait à comprendre qu'on ne peut pas tourner ça dehors de la Roumanie, c'est impossible au niveau financier. Donc on était obligé un peu de changer l'histoire. Donc j'arrivais à parler de qu'est-ce que se passait avec la famille en Roumanie. Et là, j'étais obligé un peu de faire des recherches, de revoir l'époque un peu, et de venir avec les trois histoires. C'est, en fait, il y a l'histoire de la femme qui habite en Roumanie, c'est l'histoire de meilleur ami, et c'est l'histoire de l'officier de la sécurité qui essaye d'empêcher le mathématicien de faire son monde, d'accomplir son rêve, en fait.
Ce théorème, finalement, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire. Est-ce que ça, c'est un choix de votre part de ne pas trop rentrer dans les détails, d'expliquer de façon mathématique, justement, ce théorème ?
Voilà, moi, bon, j'essaye parler un peu de l'humanité, mais pas rentrer très avec, comment on dit, avec les pieds dans la vie des hommes. Je pensais toujours que je fais un film pour faire un petit documentaire sur les animaux dans la jungle, un peu observationnel comme ça, et on essaye de garder une petite distance sur la vie. Parce qu'on ne veut pas en fait changer la vie des animaux, non ? Dans la jungle, c'est comme ça. En essayant de ne pas changer.
Alors, il y a une phrase qui m'a assez intéressé dans le film, c'est qu'à un moment donné, l'un des protagonistes dit « La famille, cellule essentielle à la société ». Et pourtant, si je ne me trompe pas, c'est quand même sa propre sœur qui l'a fait exclure du parti.
Oui, bon, cette formule, c'était la formule magique de l'époque et de la régime. Il disait toujours « La famille, c'est la cellule vitale de la société, de base de la société ». Mais en fait, la société, notamment le gouvernement, ne faisait rien pour la famille, en fait. Donc c'était juste un mot comme ça pour dire rien, en fait. Et c'est pour ça exactement que je l'ai mis là, pour parler un peu de ça. À l'époque, le gouvernement, le pouvoir, en fait, disait quelque chose en faisant autre chose, totalement différent. Donc, il parlait, par exemple, il parlait toujours de la liberté de circulation, qu'est-ce qu'on n'avait pas, en fait. Ils ont toujours signé tous les contrats de Helsinki ou je ne sais pas quoi, pour la liberté de circulation, voilà. Et, mais en même temps, toujours, les frontières étaient closes, étaient fermées. Donc, on ne pouvait pas, en fait, voyager.
O lucrare. O lucrare matematică.
Cos?
Nu e nimic politic.
BNX.
Directivele partidului sunt foarte clare. Când cineva e chemat afară, trebuie să înțeleagă că găsește și aici.
Eu sunt doar locotenent colonel. Cât să mai aștept? Am 45 de ani.
Înregistrez conversația asta?
Nu trebuie să știe că ne interesăm de el.
De ce nu-ți publicat? În felul ăsta n-am cum să-mi termin doctoratul. Am 35 de ani. Cât să mai aștept?
Ce trebuie să plece? Nu eram bine aici? Mă oblig acum să schimb tot. Am și o vârstă.
Tu i-ai zis tata să plece.
Ce?
Orice stat civilizat face asta. Verifică. CIA-ul face la fel, DST-ul face la fel. Apără avuția lor națională.
Trează, rog.
Ideile sunt avangardiste și are viziune.
Fiecare om nu-și vede decât propriul lui interes.
Uitați ce m-am sunat.
Tu chiar vrei să-ți distrugi cariera și viața asta?
Asta numești o prietenie.
Când ne face tu anchetele astea de 2 bani, ce te-ai nervezi așa?
Acum totul e doar o chestiune de timp.
Alo, da?
Cod erat demonstrant.
Pe cei interesați, aștept la mine la birou.
Est-ce que vous avez connu cette époque assez sombre de ces écoutes secrètes, de ces perquisitions, etc. Vous avez en Roumanie connu cette époque ?
Non, pas vraiment. J'ai eu la chance de pas vivre ça. En fait, mais je savais, bon, il y a des gens qui parlent, et puis la famille, grand-mère, grand-père, tout ça, donc tu entends toujours des histoires sur ça. Et puis en vrai, ce que s'est passé, que j'ai vécu, c'était un sort de pression grise comme ça. On savait que c'est pas bien de faire des choses, c'est pas bien d'écouter la radio Europe Libre, ou, je sais pas, la voix de l'Amérique. parce qu'on pouvait écouter ça, mais c'était quelque chose caché, tu le faisais toute seule, et puis tu parlais à personne de ça, donc c'était un truc un peu bizarre, parce que c'était pas les méchantetés qu'on voit, qu'on sait qu'on s'est passé, ça c'était pas évident. C'était un peu caché, c'était juste des mots, bon, c'est pas bien de faire ça parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver, mais tu savais jamais si c'est vrai ou non. Pour ça, un peu le gris, le noir et blanc que j'ai mis, en fait, pour parler de ça un peu. De ce côté un peu bizarre, kafkien, en fait, qu'on savait même pas si c'est vrai ou non. Bon, on n'avait pas le droit, par exemple, de parler aux étrangers. Si on parlait avec un étranger dans la ville, dans la rue, on était obligé par la loi de rapporter ça à la militia. Sinon, tu pourrais avoir des problèmes.
Eh ben, alors vous faisiez référence justement à Kafka. Est-ce que c'est pour vous une référence d'abord Kafka? Et moi j'avais senti dans ce film, tout le long du film, cette ambiance un peu kafkaïenne. Cinématographiquement parlant, on peut penser un petit peu à Alfred Hitchcock avec Le Rideau déchiré, dont le thème a été un petit peu, même si ce n'est pas la même histoire, un petit peu exploré de la même manière. Vous vous êtes servi de référence pour ce film?
Kafka, oui, c'est une bonne référence pour moi. J'ai toujours aimé son monde et d'abord dans mon premier film, j'ai une histoire aussi un peu kafkien, mais bon, là, le caractère, le personnage, il cherche la vérité, ben on va jamais trouver la vérité en soi, parce que ça n'existe pas, on ne peut pas, je pense, mais c'est un peu au niveau du le procès de Kafka. Bon, ici, c'est plutôt le castel, disons, le château, voilà, et puis au niveau de l'atmosphère, J'ai pas des repères plutôt. C'est Kafka, c'est ça, c'est très bien, mais je pense pas que j'ai d'autres repères.
Alors aussi, il y a quelque chose de très intéressant, c'est la radio, qui est vachement importante, qu'on revoit plusieurs fois à un moment donné. Alors il y a un contraste quand même entre ce que Elena écoute à la radio et Sorine, il écoute du bruit.
En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il est un peu radioamateur. Donc il écoute des fréquences un peu bizarres, comme ça. Bon, par rapport à ça, j'ai coupé beaucoup au montage. Je pouvais voir plus bien tout ça, parce qu'il réglait son antenne de réception, tout ça. Mais ça, il écoute, en fait, à un moment donné, il change les chaînes, et en fait, il cherche et il écoute que les sons un peu astral. C'est d'accord. Ça qui, c'est le son qui vont lui amener, je sais pas, l'inspiration divine pour la mathématique qu'il fait.
Et puis à un moment donné, alors il y a un rapport quand même avec la France qui est assez faible, puisque c'est le pays de destination, mais à un moment donné on entend une chanson de Daniel Balavoine. Alors ça, c'est un choix aussi de votre part?
Oui, bien sûr, parce que bon, à l'époque moi j'ai vécu une chose, mon père était à un moment donné pour 2 semaines à Paris pour, dans un échange pour son boulot, et puis il a amené des petites disques en vinyle de Joe Dassin.
D'accord.
Donc c'était pour moi le premier contact avec la France, quoi. Et bon, j'avais ça dans ma tête, et puis on a essayé plusieurs musiques françaises de cette époque, et je pense que ça marchait le meilleur avec le moment du film. Oui, donc le raccroche à la France, c'était évident, et c'est évident, c'est vrai.
Il faut déjà préciser aussi aux auditrices et auditeurs qui ne vous connaissent pas que vous étiez déjà là en 2007 pour présenter L'autre Irène. Vous avez d'ailleurs reçu un prix sur le Arras Film Festival. Et là, vous avez participé cette année au Arras Days pour présenter un projet. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi consiste ce Arras Days et le projet que vous avez présenté?
Arras Days, c'est une sorte de pitch, de projet. Donc on est plusieurs réalisateurs, il y a 2 ans qu'ils sont avec le producteur aussi, et on essaye convaincre un jury que notre projet c'est le meilleur. Et pour moi c'était très bien, c'est parce que bon, c'était mon premier pitch d'abord, donc je ne savais pas exactement ce que ça veut dire un pitch, et là j'ai vu les autres comme ils sont, comme ça marche un peu, ça m'a donné des idées pour l'avenir, donc c'était bien passé en fait pour moi. Et puis on a eu la chance, et moi j'ai eu la chance, d'en parlant de mon nouveau projet, d'avoir des feedbacks sur le projet en soi. Donc, et ça, c'était aussi très important. Et c'est ça l'idée, en fait, de réunir les professionnels et en parlant de, et parler de projets, de différents projets. Et tu vois après où tu es, où sont les autres, un peu faire des connexions aussi.
Mais donc, vous parlez de votre film et en même temps, vous amenez une bande-annonce. Il y a déjà quelque chose ou c'est juste défendre son film à l'oral, tout simplement?
Ça dépend. S'il y a des gens qui ont, qui ont en fait des petits tournages ou ils ont fait déjà des castings ou quelque chose comme ça, ils peuvent aussi montrer ça. Mais moi, je n'ai pas eu. Je suis juste au niveau d'écriture. Donc, je suis au niveau du deuxième ou troisième draft. Donc, je suis juste dans l'écriture maintenant. C'est pour l'année prochaine qu'on va faire un peu de recherche, de casting et on va pouvoir en fait montrer des images.
Qu'est-ce que ça raconte alors votre nouveau projet hein?
En deux mots, c'est un peu la continuation de Quadra Demonstrandum, mais sur autre niveau, parce qu'en fait ça parle de l'amitié, mais l'amitié qui est menacée des agents. Donc comment l'amitié en fait est détruite par l'argent dans une nouvelle société roumaine, ça parle de la société de nouveaux riches roumains, et en fait les agents ça détruit pas des amitiés que dans la Roumanie, mais ça peut détruire des amitiés partout dans le monde, donc je pense que c'est un sujet assez universel en fait.
Pour revenir sur ce casting d'acteurs que vous avez choisi pour Quaderat Demonstrandum, comment vous l'avez effectué?
C'était un peu difficile parce qu'au début, je voulais travailler avec deux acteurs. Il y a un qui n'était pas possible dans la période de tournage. Il avait déjà deux autres plans. Donc, j'étais en situation trouver tout d'un coup un autre acteur. Je parle de l'officier de sécurité et c'était pas facile de trouver un autre. Et puis pour la fille, on a fait un casting pendant 3 mois. Et finalement, c'est la productrice qui a eu l'idée parce qu'on n'a pas trouvé en fait quelque chose de très bien. J'avais quelque chose, mais c'était pas bien. Je pensais pas qu'elle marche assez bien pour l'époque, pour refléter l'époque, les années 80 en fait. Donc la productrice a amené cette idée d'essayer avec une comédienne qui est plutôt connue dans le théâtre. Elle est très bien dans le théâtre, elle n'est pas de Bucarest, elle est de Sibiu. Donc c'était un peu difficile de l'amener à Bucarest, de faire des essais avec elle. Mais on a fait ça et après un jour, on a bossé un jour, je pense, et j'étais convaincu que c'est lui, que c'est elle, Elena. Et puis c'était un peu plus facile parce que dès que j'avais elle, j'ai eu un coup de folie comme ça et j'ai appelé le comédien qui joue maintenant Sorin, qui était à mon avis le seul comédien qui pourrait faire face à Elena, à Ophelia Poppy en fait.
C'était un entretien avec le réalisateur roumain Andrei Grouzniski, Quod Erat Demonstrandum, film présenté en compétition européenne dans le cadre de la 15e édition du Arras Film Festival.